Bien, mesdames et messieurs, chers amis, bonsoir. J'ai le plaisir de modérer ce soir le quatrième de nos séminaires de droit politique soutenus par l'Agence nationale de la recherche, dont le thème est « Doit-on transposer le modèle du régime mixte aux démocraties contemporaines ?» Nous honorons ce soir de la présence d'un certain nombre de discutants tout à fait qualifiés pour parler de ce thème compliqué. Monsieur Rana Lévy, directeur de recherche au CNRS, Monsieur Philippe Reynaud, professeur à Paris 2, sciences politiques, Monsieur David Mongouin, qui enseigne le droit public à l'Université Jean Monnet de Saint-Étienne, Carlos Miguel Pimentel, qui normalement est l'élément monarchique de notre constitution, puisqu'il est le directeur de ce projet, dont on a laissé la parole aujourd'hui. Qui a laissé ce rôle de modérateur, Armel Le Divelec qui fait un excellent élément aristocratique, on peut le dire.
Comme il vous plaira.
Nous devons toutefois regretter l'absence de quelqu'un qui aurait fait un très bon élément démocratique, c'est Michael Differas, qui ne peut pas être avec nous ce soir, et de Jean-Marie Danquin, qui est également excusé. Je crois que ce sont toutes les absences dont il fallait faire part. Alors, c'est un thème riche qui est le nôtre ce soir. Nous avons donc pris le parti de lui consacrer deux fois une heure, un petit peu plus long donc ce séminaire que les séminaires habituels, en distribuant les deux heures entre, disons, deux parties des lectures, puisque vous savez que c'est essentiellement ce soir un séminaire de lecture et de commentaire de grands textes. Et puis, entre les deux grandes problématiques qui avaient été suggérées dans les documents préparatoires. Alors, je vais, à titre liminaire, rappeler les questions qui sont posées et essayer d'esquisser cette difficile problématique du gouvernement mixte. Une des grandes vertus du parti qui est celui de raisonner en termes de droit politique plutôt peut-être que de droit constitutionnel, c'est de se mettre en position de réveiller des notions anciennes en vue de les confronter au temps présent. Dans les ouvrages actuels de droit constitutionnel, on ne parle plus guère, voire même plus du tout, de gouvernement mixte ou de constitution mixte, c'est une terminologie dépassée, révolue. Est-ce à bon droit ? Est-ce légitimement qu'on a mis de côté cette terminologie qui était tout à fait classique et qui a joué un rôle très important dans la longue durée de l'histoire de nos institutions politiques et constitutionnelles? Le séminaire s'articulera autour de deux séries de questions qui correspondront donc assez grossièrement aux deux parties, aux deux heures du séminaire en question. Première question, qu'est-ce que c'était que le gouvernement mixte? Comment le définir? Que signifiait-il dans le droit politique classique? Et puis, seconde question, j'y viendrai, est-il légitime encore de ressusciter le gouvernement mixte, de raisonner du moins en termes de gouvernement mixte pour comprendre les régimes politiques contemporains? Alors, la première question, elle n'est pas légère, elle est tout à fait lourde et importante et difficile à résoudre. Il n'y a peut-être pas d'ailleurs une seule réponse, c'est celle de la signification classique du gouvernement mixte. De quoi s'agissait-il au juste? Que recouvrait-il? S'agissait-il d'une prise en compte par les institutions politiques de ce qu'on a appelé ensuite la société, de différentes formes de propriété, de la diversité constitutive des membres du corps politique? Est-ce que c'était une forme ancienne du pluralisme ou du dissentiment dans les sociétés politique pré-moderne, disons, de la jeune modernité. Était-ce une solution archaïque au problème constitutionnel? Était-ce même un dispositif constitutionnel tout court, ou quelque chose qui n'est pas du ressort du constitutionnel? C'est pas une question nécessairement triviale. Était-ce une manière habile de prévenir la guerre civile, d'instituer l'harmonie sociale par une distribution? Justement, une distribution de quoi? Du pouvoir, des pouvoirs, des fonctions, de la représentation. C'est pas du tout une question facile à trancher. Dans des sociétés qui, de manière croissante, étaient marquées par la diversité, qu'il s'agisse de la diversité des propriétés, de la diversité sociale, de la diversité instituée qui était celle des rangs, et puis évidemment de la diversité confessionnelle, religieuse. Ça, c'est la première question, et on essayera d'y répondre en lisant ensemble les quatre premiers textes de notre petit document de travail. On y verra à la fois les versions, une des versions classiques, une des formulations classiques du régime mixte qui se trouve dans Polybe, et puis ensuite deux formulations plus modernes, chacune suscitant son degré légitime d'étonnement et d'interrogation, celle de Charles Ier, qui, sinon lui, du moins les rédacteurs de cette fameuse réponse aux 19 propositions de 1642, par une sorte d'erreur de plume à faire entrer la monarchie parmi les éléments de la Constitution, là où ça n'était absolument pas dans le discours classique, dans les trois estates de la Constitution, là où traditionnellement les trois estates n'incluaient pas la monarchie, qui était la tête organique de l'État, mais qui n'était pas une des composantes de cette mixité constitutionnelle. Et puis la version également à la fois classique et problématique de Blackstone. Au fond, pour lancer la discussion et à titre de question liminaire, je vous dirais simplement la chose suivante. En lisant ou en relisant Polybe, on a l'impression finalement qu'à ses yeux, et de manière peut-être assez différente de ce à quoi on peut s'attendre et de ce qu'on lit, tant chez, si je puis dire, chez Charles Ier, c'est pour ça qu'il n'est pas l'auteur de ce texte, hein, et puis chez William Blackstone, que c'est pas tant que le régime est mixte au sens où il y aurait une décomposition des institutions, une répartition institutionnelle entre plusieurs groupes sociaux, c'est plutôt qu'il est, selon l'institution, les compétences envisagées et les circonstances historiques, parfaitement chacun des trois types. Alors qu'au fond, on y reviendra peut-être, mais c'est mot pour mot ce que dit Polybe. Au fond, tant chez Charles Ier qu'ensuite chez Blackstone, on trouve une tentative pour montrer comment on compose un pouvoir constitutionnel avec une série d'institutions, chacune représentative, soit d'un ordre social, soit d'une vertu et éventuellement d'un certain nombre de vices moraux, dans un ensemble qui ressemble au fond à une distribution moderne des pouvoirs. Au fond, parle-t-on de la même chose quand on parle du gouvernement mixte? Les textes que nous avons sous les yeux peuvent nous inviter à en douter. Sans préempter la discussion de la deuxième heure, je rappelle qu'elle portera sur la question faut-il raisonner en termes de gouvernement mixte pour comprendre les régimes politiques contemporains? Et si les membres de notre groupe de discussion de ce soir ont des réflexions sur ce point particulier, il est peut-être de bonne politique, de bonne organisation de les réserver pour cette seconde heure. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, le projet qui anime plus spécifiquement ce quatrième séminaire, c'est de commenter les textes et d'inviter les membres de notre panel, comme on dit en bon franglais, à discuter les textes à partir de l'analyse textuelle, même si, évidemment, je dois le rappeler, toutes sortes d'observations sont bienvenues et qu'il n'y aura pas de censure exercée ni par moi ni par quiconque sur ce que vous aurez lieu de tirer des textes en question ou de tirer de la problématique en question. Tout dernier petit point qui fait partie de nos méthodes traditionnelles, pendant la deuxième heure, les membres du public sont invités à participer, la première heure étant plus spécifiquement réservée à nos membres de notre panel. Voilà, donc au fond, première question, très simplement, qu'est-ce que c'était que le gouvernement mixte? Comment est-ce qu'il se définissait? Y avait-il une ou plusieurs définitions? À quoi servait-il, somme toute?
Si on parle de la configuration, je prends la parole. Hein. Si on parle de la configuration historique, on peut dire que c'est une idée qu'on trouve dans immémoriaux, puisqu'on la trouve sous l'Antiquité, principalement formulée par, enfin, qui se trouve chez Solon. Ensuite, que cette idée traverse et se retrouve chez Polybe à Rome pour rendre compte de l'équilibre de l'Empire romain. En définitive, c'est quelqu'un qui cherche à comprendre qu'est-ce qui fait la force de cet empire, et il pense trouver une partie de la réponse dans l'équilibre politique de cette configuration politique particulière. Chez Polybe, Et plus généralement, l'idée initiale du régime mixte, c'est que l'équilibre des forces sociales n'est pas indifférent à l'équilibre politique. Je crois que c'est le nœud de cette notion. Et effectivement, cette notion est difficile à appréhender parce qu'elle a des formulations historiques différentes et des formulations théoriques également. Et par conséquent, il y a une mixité du régime mixte, en quelque sorte. Et c'est vrai que ça rend ce concept difficile à appréhender, mais je crois que le cœur, c'est quand même l'idée que l'équilibre social doit être pris en compte pour l'équilibre politique. À partir de là, en partant de l'idée qu'une société est divisée, est divisible et divisée en différentes forces, en différents intérêts, eh bien c'est l'idée d'une coexistence possible dans les organes du gouvernement. Ce qui pose la question évidemment de sa pertinence pour les régimes plus contemporains, mais évidemment dans les régimes fondés sur des privilèges, sur une inégalité de droit, le régime mixte avait tout à fait une pertinence particulière. Voilà pour le point de départ hein, de cette notion.
Merci beaucoup, ça pose très bien les données du problème. Je reviens à la question que je posais tout à l'heure, parce que c'est une chose qui m'intrigue chez Pauline. Après nous avoir dit, page 86, en bas au niveau du paragraphe 11, que trois éléments détenaient le pouvoir dans cette constitution, il dit ensuite, en fait, de manière que je trouve intrigante, que selon les circonstances et selon les fonctions envisagées, le pouvoir, l'ensemble du régime était soit parfaitement aristocratique, soit parfaitement démocratique, soit parfaitement monarchique. C'était ça l'objet de ma question de tout à l'heure. J'ai trouvé ça intriguant. C'était pas quelque chose dont je me souvenais dans ce texte, et ça m'a frappé en le relisant. On a l'impression qu'au fond, la démonstration... Alors, ai-je raison de le penser, que vous allez me le dire, mais on pourrait avoir l'impression que la démonstration n'est pas qu'il y a une hybridité du pouvoir par une distribution des fonctions, mais qu'à cause de la manière dont se configure l'exercice des pouvoirs dans telle ou telle circonstance, il y a certains moments où la constitution romaine est parfaitement aristocratique, d'autres moments où elle est parfaitement démocratique, et des troisièmes moments où elle est parfaitement monarchique, ce qui est tout de même, je trouve, pas du tout ce que dirait ensuite Blackstone, par exemple, ou ce que dirait ensuite Charles Ier. Ran, allez-y.
Il y a quelque chose qui est très intriguant dans Polybe. D'abord, quand on le regarde du côté du XVIIIe siècle, on est effectivement frappé d'emblée par la présence des forces sociales dans une discussion sur des pouvoirs politiques. Il y a une phrase qui, si je le lis bien, veut dire qu'un gouvernement parfait est difficilement catégorisable. Cette phrase à la page 86, en bas, « Toutes choses respectivement avaient été organisées et étaient menées d'une manière si équitable et appropriée que personne, même parmi les gens du pays, n'aurait pu dire avec certitude si l'ensemble du régime était aristocratique, démocratique ou monarchique. » Autrement dit, il y a chez Polybe, déjà, si je puis dire, et il trouvera des échos au XVIIIe siècle, et quelques échos, une combinaison d'acteurs et d'organes dont le rôle est privilégié selon les circonstances, par exemple quand les consuls sont partent en guerre. Mais deuxième aspect de cette lecture très possible enfin, de Polybe, c'est que sa description ne suppose pas des conflits. Elle suppose des solutions, elle suppose des remèdes, mais ne part pas de l'idée que Hobbes jette à la figure du lecteur dans une page des éléments de loi. Écoutez, vous avez des acteurs qui se font la guerre, et s'il n'y a pas d'autorité désignée, c'est la guerre civile, voire, dit-il, l'état de nature. Polybe suppose, je dirais, une bienveillance naturelle des protagonistes, que ce soit des forces sociales ou des acteurs. Il peut y avoir, comme vous dites, donné des situations où tel acteur exerce un rôle éminent et dans telle autre circonstance, c'est un autre acteur qui joue ce rôle. Et sur fond de cette description plutôt heureuse, le peuple, qui est l'arbitre éclairé de tout ce dispositif ou de tout ce mécanisme. Mais c'est comme Michael Cameron a dit sur la Constitution américaine, j'ai lu cette phrase de façon anachronique en tête, « It is a machine that would go by itself. » Et du coup, il n'est pas catégorisable. Il le dit lui-même. Heureuse machine.
Je sais qu'on a raison de le faire, mais ça n'empêche que je suis toujours surpris par le fait qu'on fasse commencer la réflexion sur le régime mixte à Polyb. Parce que, effectivement, il annonce quelque chose de nouveau, pas tellement, je crois, en introduisant une catégorie nouvelle qui serait celle du régime mixte, mais en disant qu'il y a un régime nouveau qui est le régime de Rome. Et ce que je voulais remarquer sur ce point, c'est trois choses. C'est que les composantes du régime mixte et le fait qu'elles puissent être combinées, c'est aussi vieux que la pensée grecque. On trouve par exemple dans Hérodote un célèbre dialogue sur les trois formes de gouvernement qui nous dit à peu près tout sur le fait que c'est quelques-uns ou plusieurs. On trouve chez Aristote, même si, comme le dit Permanent dans son dernier livre, et comme le disait Montesquieu d'ailleurs, il s'intéresse pas beaucoup à la monarchie, on trouve également des éléments tout à fait classiques pour une bonne raison, c'est qu'on a d'abord la caractérisation de la monarchie à partir des fonctions militaires. Cela est exactement ce que fait Polybe. C'est le consul, c'est l'autorité militaire et c'est une des figures, et d'ailleurs la plus pertinente, que Aristote détache pour la monarchie. Là, il me paraît tout à fait classique. Et d'autre part, au début de la politique, on a, plutôt dans le livre 2 et 3, si vous vous souvenez bien, on a cette grande discussion pour savoir si c'est les oligoïs ou la masse qui sont susceptibles de faire apparaître ce qu'on appelle le bien commun ou comme on voudra. Question qui est d'ailleurs largement aporétique, enfin du moins dont la réponse n'est pas très claire chez Aristote. Et ce qu'on peut ajouter, c'est que finalement, même si on prend le régime athénien, si on veut le décrire comme une pure démocratie, on ne peut pas y arriver. Parce que d'abord, il y a des fonctions qui sont électives et donc qui sont aristocratiques. Et parmi ces fonctions, il y a celle de stratège, qui est à l'époque la meilleure de la démocratie, c'est-à-dire sous Périclès, devient franchement monarchique. C'est d'ailleurs pour ça que quand il fait le bilan, si j'ose dire, du gouvernement de Périclès, Thucydide, je cite de mémoire, dit que sous l'apparence de la démocratie, c'était le meilleur qui gouvernait. Donc, quand même, moi j'ai quand même le sentiment que tout ce qu'il faut pour penser le régime mixte, on le trouve déjà avant Polybe. On le trouve même, par exemple, on peut très bien décrire la constitution des lois, par exemple. On peut la décrire comme une constitution islamique avec la charia au centre. C'est pour ça que Al-Farabi, etc., l'admirait beaucoup. Mais enfin, par ailleurs, c'est un régime mixte. Enfin, il y a de la démocratie, de l'aristocratie et de la monarchie. Il y a tout ce qu'il faut. Alors donc, ce qu'il faut se demander, je crois, c'est qu'est-ce qui est nouveau pour Polybe dans le régime romain. Alors, qu'est-ce qui est nouveau, me semble-t-il, c'est la combinaison de la stabilité et de la conquête. Je crois que c'est ça qui fait la nouveauté du régime romain, qui va être d'ailleurs au centre de la pensée de Machiavel, mais lequel Machiavel, lui, va refuser la notion de régime mixte, parce qu'il considère qu'il n'y a pas trois formes, il n'y en a que deux. Il y a les principautés et les monarchies, puis il n'y a que deux forces, il y a les grandis et le popolo. Alors qu'est-ce qui fait la nouveauté pour lui ? Cassio nous dit que son dernier mot, ce soit l'idée qu'elle est pleinement démocratique, pleinement aristocratique, etc. Parce que si on continue. Enfin, moi, ce qui me frappe plutôt, c'est un peu plus loin, cette idée que dans le régime romain, on a des éléments qui obligent les composantes du régime à travailler avec les autres. C'est ça, me semble-t-il, c'est le paragraphe 17, la page 92, enfin 16 et 17, le Sénat se trouve contraint en premier lieu de tenir compte de la masse et de chercher l'accord du peuple dans la conduite des, accords des affaires publiques, puis son pouvoir d'enquêter et de réprimer, etc., etc. De la même façon, à son tour, le peuple a des obligations envers le Sénat et doit chercher son accord tant sur le plan public que sur le plan personnel. Si bien que c'est une question que je me suis posée en vous écoutant, parce que vous avez évidemment raison, qui dit ce que vous dites. Mais comment on peut combiner ça avec l'idée que c'est pleinement aristocratique et pleinement ou pleinement démocratique? C'est pas pleinement aristocratique, c'est pas pleinement démocratique. Et c'est peut-être d'ailleurs, mais je ne veux pas anticiper sur la suite, un des éléments permanents de la notion de régime mixte, toute sa permanence, c'est le linkage. C'est le fait qu'il y a cette obligation de compromis entre des forces qui sont distinctes, mais dont l'action se trouve finalement inséparable. Mais je crois qu'il faudrait probablement en savoir plus que je ne sais sur la manière dont un Grec pouvait comprendre l'expansion romaine, qui paraît quand même c'est le point central, si vous voulez. C'est comme, je sais pas, c'est pas le défi américain, c'est le défi romain. C'est pourquoi c'est eux qui ont gagné. Parce que c'est quand même ça, ils sont moins intelligents, ils sont moins cultivés, etc. Et qu'est-ce qu'ils ont de mieux que nous? Et ce qu'ils ont de mieux que nous, c'est la combinaison de la stabilité et de l'expansion, je crois, qui est... parce que le point, quand même, par exemple, justement, dans les discussions classiques, si on considère par exemple la démocratie comme naturellement impérialiste, c'est parce que c'est un régime qui ne sait pas s'arrêter. En revanche, l'aristocratie, la cérémonienne, malgré le mystérieux prestige dont elle jouit chez les philosophes, elle ne savait que trop s'arrêter. Enfin, voilà, quelques idées en l'air.
Ouais. Philippe, tu viens de prononcer le mot compromis. Je veux dire que ce qui me frappe le plus dans ce texte, c'est plus la notion d'équilibre et presque la notion d'équilibre mécanique. Je sais que chacun lit des textes qui ne lui sont pas familiers à partir des expériences de lecture plus tardives qu'il a, mais ce langage mécanistique est très frappant ici. C'est-à-dire, d'une certaine manière, ils n'ont pas à négocier, à arriver à des compromis. Il y a un mécanisme qui rétablit l'équilibre, un peu, j'anticipe, à la manière dont Montesquieu décrit l'équilibre automatique qui se produit dans les rapports entre les parties, dans le deuxième grand chapitre sur l'Angleterre. Si vous regardez à la page 93, au début de la... C'est le langage de l'équilibre quasiment mécanique. Tel était le pouvoir de chacun élément du système, tant pour nuire aux autres que pour collaborer avec eux, il se trouve qu'ils s'harmonisent d'une manière appropriée à toute conjoncture, c'est-à-dire l'équilibre. Et à la fin du texte, lorsqu'en effet un des éléments tendant à s'enfler, c'est un langage très parlant, cherche des querelles et devient trop prédominant, il est évident qu'aucun d'entre eux n'étant indépendant, comme on l'a dit tout à l'heure, et chacun pouvant voir son intention contrebalancée et entravée par les autres, aucun des éléments ne parvient à s'enfler ni à s'engueuler. C'est donc une espèce de mécanisme qui est, me paraît peut-être plus important encore que les intentions, les compromis, les négociations. Il y a là un dispositif, il nous décrit un dispositif où d'ailleurs la méchanceté et l'égoïsme des hommes n'est pas, ne me paraît pas, je me trompe peut-être, de constituer un élément central, et c'est un système qui marche parce que sa structure est bonne, la machine est bonne. Et en plus, il nous l'a décrit sans décrire son mécanisme. C'est-à-dire, c'est presque, il dit... En gros, il nous dit, quand ça marche, ne vous posez pas trop de questions pour quand ça marche, mais ça marche très bien.
Oui, mais bien sûr, tout ce que tu dis est vrai, mais ce qui est dit, c'est que cet équilibre se manifeste par le fait que le peuple a des obligations envers le Sénat, il doit chercher son accord, que le Sénat se trouve contraint de tenir compte de la masse, c'est pas la même chose. que si, par exemple, l'un et l'autre avaient un droit de veto institutionnalisé, comme dans la Constitution américaine. Mais ça n'empêche pas l'autre.
Est-ce qu'il n'y a pas un mot qui pourrait faire la synthèse et qui n'est pas dans le texte, que j'ajoute de manière délibérément anachronique, qui serait le mot modération ? Il y a une distribution des fonctions constitutionnelles qui donne la quasi-totalité du pouvoir à un certain moment au consul, à d'autres moments au Sénat et à d'autres moments au peuple, mais quand chacun est dans l'exercice plénier quasiment souverain de sa fonction, il est contraint de rechercher l'harmonie vis-à-vis des autres composants.
Oui, mais là aussi, la modération, c'est pas seulement l'idée de Montesquieu, c'est pas une idée si nouvelle. Je vois pas comment on peut décrire les bonnes constitutions chez Aristote sur les constitutions modérées, c'est pareil. Je suis d'accord, mais sans doute. Mais bien sûr que c'est la modération. Et pas modérément modéré.
Carlos, en fait.
Oui, moi je me sens pas compétent pour parler du gouvernement mixte dans l'Antiquité, parce que je connais vraiment pas suffisamment ces questions.
Ça vous plaît pas en plus. Vous n'aimez pas les anciens.
Je me sens moins familier, disons. Mais peut-être quelques mots sur la version anglaise et sur cette question qui avait déjà été abordée. Est-ce que le gouvernement mixte est une espèce de façon de mettre des forces sociales, un équilibre de forces sociales dans le jeu institutionnel? Peut-être que ça marche assez bien, et sans doute ça marche assez bien pour l'Antiquité. On a quand même un problème avec la composante monarchique, parce qu'une composante monarchique, c'est pas du social, c'est pas une force sociale. Et ce problème avec la composante monarchique, il y a toujours quelque chose qui ne colle pas vraiment. Je ne sais pas, chez Polybe, par exemple, il y en a deux, des consuls, il n'y en a pas un, alors c'est un peu bizarre pour une monarchie. Comme le disait Denis, avec Charles Ier, est-ce que le roi est un estate, est-ce qu'il n'est pas un estate? Enfin, il y a des hésitations autour de cette question. Et puis surtout, me semble-t-il, si on transpose l'idée du gouvernement mixte, comme on le fait en Grande-Bretagne, en gros à partir du XVe siècle, Fortescue, la consistance sociologique des deux autres estates me paraît beaucoup, beaucoup plus problématique. Elle est beaucoup plus problématique parce que on n'est pas du tout dans une configuration où aristocratie et démocratie, ça voudrait dire en gros quelque chose comme une version anglaise de noblesse et tiers état, pour simplifier considérablement. Ça n'a rien à voir, ça n'a absolument rien à voir, puisque la composante aristocratique, c'est la nobilité, donc c'est un tout petit nombre de pairs, de lords, dont les fils ou les frères, quand ils exercent une fonction politique, ce qui est le cas très fréquemment, siègent à la Chambre des communes, dans la composante démocratique. Donc on voit, me semble-t-il, qu'il n'y a pas de correspondance claire entre le social et le politique à cet égard. Et quant à la composante démocratique elle-même, la Chambre basse, dès lors qu'elle est représentative, et vu sa composition, il y a les cadets des familles de la nobility, et puis il y a la gentry. Et la gentry, c'est aussi une élite. C'est une autre élite, c'est une élite inférieure, mais c'est évidemment pas le peuple. Donc il me semble que cette consistance sociologique, entre guillemets, devient très très problématique quand on commence à l'appliquer aux Anglais. Et il me semble aussi au-delà, je vais m'aventurer sur un terrain qui est un peu problématique, mais il me semble aussi au-delà que la notion même de gouvernement mixte, me semble-t-il, nous invite peut-être à remettre un peu en cause la dualité du social et du politique, et la façon dont on essaie de dire finalement le gouvernement mixte, c'est des forces sociologiques dans le système institutionnel, c'est parce que c'est moins désincarné que notre séparation des pouvoirs, nos fonctions, etc. Je ne suis pas sûr que ce soit ça. Je ne suis pas persuadé. Et j'en suis d'autant moins persuadé qu'au fond, j'ai l'impression que cette distinction même entre le social et le politique est problématique. D'abord, elle est récente. Aristocratie, en 1789, je parle sous le contrôle de Rane, ça ne veut pas du tout dire la noblesse. C'est pas la noblesse. C'est le pouvoir politique d'une élite héréditaire, mais c'est un pouvoir politique. c'est pas les nobles eux-mêmes. Ça n'aurait pas de sens à cette époque-là, pas plus que si aujourd'hui on disait la démocratie c'est le peuple, la démocratie c'est le groupe, c'est pas ça. Bon. Et de même, l'aristocratie c'est pas les nobles. L'aristocratie c'est la prétention à dominer dans l'État, ce qui est d'avoir une domination politique dans l'État, ce qui est pas pareil. Et il me semble, j'ai pas approfondi la question, mais je regardais ces derniers jours le moment où j'essaie de trouver le moment où on assimilait aristocratie et noblesse. Et j'ai l'impression que c'est chez Guizot, dans des moyens de gouvernement et d'opposition, où il est le premier, donc dans le contexte de chambre introuvable.
Il faut être roturier pour le faire.
C'est dans un contexte de chambre introuvable. Il parle de l'ancienne aristocratie, au sens de groupe social. Mais avant lui, on n'en parlait pas. Peut-être un tout petit peu même de Staël dans les considérations sur la Révolution. Mais avant lui, non. Donc Constant parle de noblesse, Constant, mais pas d'aristocratie en tant que groupe social. Et il me semble que c'est précisément au moment, c'est à ce moment-là aussi que c'est Guizot dans ce livre qui va très clairement faire une distinction et une opposition entre le social et le politique, en disant, voilà, les élites sociales anciennes sont encore au pouvoir, politiquement parlant, parce que les ultras dominent, mais comme elles sont socialement dépassées, elles devraient céder la place aux classes moyennes, dit-il, enfin la bourgeoisie, qui devrait exercer le pouvoir politique. Mais ça, c'est une distinction nouvelle. Et je me dis, j'ai l'impression que dans le phénomène du gouvernement mixte, il y a quelque chose qui nous invite à aussi remettre en question nos catégories sur la dualité du social et du politique. Furet expliquait très bien, par exemple, comment Tocqueville, en essayant de comprendre le passage de l'Ancien Régime à la Révolution, avait d'abord essayé de raisonner comme ça, en disant la Révolution, c'est le brutal ajustement de l'état politique de la France à son état social. Et puis finalement, il s'aperçoit que ça ne marche pas, il y renonce, parce qu'on ne peut pas réfléchir en ces termes. Et je me demande si, de ce fait, la compréhension sociologisante du gouvernement mixte, en tout cas anglais, n'est pas quelque chose comme une illusion rétrospective, me semble-t-il.
Il y a quelque chose qu'on pourrait remarquer à la lecture de ces textes, c'est que il y a partage, il y a mixité, mais c'est jamais de la même chose. C'est-à-dire, par exemple, chez Polybe, au fond, il y a véritablement une répartition des compétences, quelque chose d'assez constitutionnel, c'est assez impressionnant. Les gens qui disent que dans l'Antiquité, il n'y a pas des pouvoirs constitutionnels, il y a des forces, c'est quand même la démonstration du contraire, un texte comme ça. Il n'y a pas que des forces sociales à l'œuvre. C'est là, il y a véritablement des questions de répartition d'un certain nombre de fonctions, disons juridiques, pour dire simple, entre des organes constitutionnels, encore pour dire simple. Chez Charles Ier, c'est pas encore la même chose. Au fond, chez lui, c'est la souveraineté gouvernante du monarque européen classique dont il dit qu'au fond, elle est impartageable, mais on va quand même faire comme si, parce qu'il y a une guerre civile qui nous pend au nez. C'est un pouvoir qui est à la fois celui d'être législateur, celui d'être fontaine de justice et celui d'être gouvernant. C'est un tout. Et c'est ça qui fait d'ailleurs que c'est un texte impossible. Ça ne peut pas marcher, ça ne se partage pas. Et puis chez Blackstone, c'est la souveraineté moderne législative. La beauté de la constitution blackstonienne, le fait qu'elle est une synthèse parfaite et donc une forme du meilleur régime, sa réponse à lui, c'est que c'est parce qu'il y a un partage du pouvoir législatif entre le roi, la Chambre des communes et la Chambre des lords dans la constitution britannique. Ça, c'est déjà trois variantes. C'est pas la réponse à la même question et c'est pas le partage de la même chose qui est en cause. Et j'ajouterais encore autre chose, c'est que, un peu dans le sillage de ce que vient de dire Carlos, c'est que tous ces gens-là disent une chose, qui, même si je crois que de ce que tu dis, mais en gros, il s'agit quand même de dire il y a une certaine différenciation au sein du corps social. On va essayer de regarder comment représenter ça dans l'administration de l'État. Mais il y a une autre manière de faire du gouvernement mixte qui est de partir dans le sens inverse, c'est-à-dire de se dire il faut distribuer la propriété autrement. Chez George Lawson, dans l'Océano-Océana, Commonwealth of Oceana, c'est l'inverse qui est fait. C'est-à-dire on se dit le bon rapport entre le social et le politique procédera d'une certaine distribution de la propriété. Qui n'est pas encore réalisé aujourd'hui, et j'aurais tendance, c'est du gouvernement mixte à l'envers si je puis dire, mais c'est encore une variante différente du gouvernement mixte. Tous ces gens-là ont en commun de ne pas trop discuter la texture même du social. Ils la prennent grosso modo pour acquise, alors qu'il y aura, et c'est probablement ça le radicalisme politique moderne, c'est de se dire on va renverser les termes, et ce qu'on va essayer de manipuler, la pâte qu'on va essayer de modeler, c'est le social lui-même. Je dis ça parce que Mickaël n'est pas là.
Tu nous tiens lieu de composante démocratique de la Constitution.
C'est... Comment dire, moi je crois que ce qui conduit effectivement à l'idée que le gouvernement mixte c'est une forme de compromis social, je suis tout à fait d'accord avec Carlos, c'est un anachronisme. Mais c'est un anachronisme d'abord parce que la notion de société n'est pas prédominante dans la pensée antique. Enfin, ce dont on parle c'est de koinonia ou de police. Même à Rome, la societas, c'est pas tout à fait central. Et ce que je voulais ajouter, c'est que je trouve qu'il y a, ce dont hérite, me semble-t-il, la notion de gouvernement mixte, c'est d'une difficulté ou d'une ambiguïté qui est présente dès le début de ces classifications ternaires, un quelques-uns et tous, c'est que, en fait, c'est une distinction qui s'impose pour sa simplicité arithmétique, enfin si on peut dire, mais qui n'est jamais vraiment suivie, à mon avis, quand on y réfléchit, parce qu'en fait, on voit très bien qu'il y a cette tripartition, c'est une double ou une triple bipartition, si j'ose dire, c'est-à-dire qu'il y a d'un côté l'opposition de la monarchie et des régimes qui ne sont pas monarchiques. Et ça, Carlos, d'ailleurs, c'est bien pour ça que, bien entendu, que le monarque, ce n'est pas une force sociale. Le monarque, dans la pensée grecque, c'est une fonction. C'est soit une forme archaïque de gouvernement, parce qu'ils ne sont pas assez mûrs pour être républicains, etc., etc., ou ils sont trop grands pour le despotisme, etc., ou bien alors, mais dans ce cas, ce n'est pas une force sociale, ce n'est pas une composante sociale, c'est le régime tout entier qui est monarchique, ou bien alors c'est une fonction particulière qui est le type d'autorité qui est requis dans le commandement militaire, c'est les rois. Alors à l'époque où on fait que de la guerre, comme la guerre de Troie évidemment c'est ce qui prédomine, à une époque plus complexe et plus diversifiée ça ne prédomine plus, mais en tout cas la monarchie c'est quelque chose de tout à fait à part je crois dans ces classifications par rapport à ce qui est quand même au premier plan à ce moment-là. Qui est le rapport entre les quelques-uns et la majorité ou la totalité, et où là c'est toujours pareil. Il y a quelque chose d'un petit peu constant, et on se rapproche quand même, me semble-t-il, davantage de l'idée qu'il y a des masses stables entre lesquelles il faut un équilibre, des compromis, etc. Et dont, vous connaissez mieux le régime anglais que moi, mais. Je voulais faire deux remarques et je parle sous le contrôle de Rane. Est-ce que vraiment la noblesse et l'aristocratie, ça n'a rien à voir? Ça, j'en suis pas sûr, parce que il me semble qu'avant Guizot, il y a le manifeste de Sieyès, qu'est-ce que le tiers d'État? Parce que quand vous dites le tiers d'État, ça n'a rien à voir avec ce qu'il y a dans la Constitution anglaise, le tiers d'État aussi, c'est une élite. C'est pas le premier coup d'un venu, il y a des notables, il y a des personnages plus importants que d'autres et qui réclament le pouvoir, ils veulent pas le fondement du privilège. Mais il me semble qu'on n'attend pas Guizot pour dire les aristocrates à la lanterne, par exemple. On ne dit pas la noblesse à la lanterne. Donc la superposition des deux, j'ai l'impression que ça se fait quand même assez vite.
Mais je crois que Carlos dit quelque chose de très vrai, c'est que quand on regarde la littérature, soit les apologies de la noblesse, au XVIIIe il y en a plein, elle essaye de retrouver une vocation, soit dans les critiques de la noblesse, le mot aristocratique ou aristocrate, c'est une insulte qui est inventée en 89.
Oui, il y a ça très d'accord,
mais pas en 89.
Mais pas en 1820.
Non, mais il a raison de dire qu'il n'y a pas une pensée, il y a quelques rares tentatives de repenser le rôle de la noblesse comme une aristocratie avant la Révolution. Mais elles sont très rares. C'est même surprenant à quel point elles sont rares, puisqu'il y a des auteurs politiques qui tendent la perche, si j'ose dire, à une noblesse qui est tellement fragmentée au XVIIIe siècle qu'elle n'arrive même pas. J'ai un article où j'essaye de poser une question qui est très peu historique. Pourquoi la noblesse, qui au moment des guerres de religion et au moment de la Fronde, développe des théories aristocratiques? Elle n'utilise pas le mot, vous avez raison, mais elle essaie de se définir un rôle qui politique, ou pour être encore plus précis, parce que le mot aristocratie n'y est pas, de définir une vocation constitutionnelle, d'entrer dans une idée de constitution. Puis au XVIIIe siècle, là où on lui donne sur un plateau d'argent une théorie du rôle de la noblesse de Montesquieu, vous n'avez pas le début d'un soupçon d'un projet constitutionnel qu'on pourrait appeler aristocratique. C'est très vrai. Et ce qui est vrai aussi, que l'aristocratie explose en 88-89 comme une dénonciation. C'est-à-dire, d'une certaine manière, le mot noblesse n'a pas une charge suffisante de dépréciation que le mot aristocratie, d'ailleurs il y a des études linguistiques là-dessus, que le mot aristocratie contient spontanément et avec une efficacité redoutable. Une efficacité telle que le mot est utilisé, comme vous le savez, au moment de la terreur contre n'importe qui. Le projet de Guizot, d'ailleurs, qui est dénoncé par Tocqueville avec un mélange de rage et d'ironie, c'est justement de fabriquer une aristocratie sans origine ou sans antécédent nobiliaire. Qui est le projet Guizot au XIXe siècle.
Peut-être, si je peux, puisque vous posez la question, Philippe, évidemment, Sieyès dénonce les aristocrates, et évidemment, quand il dit ça, il confond plus ou moins avec la noblesse, quand il dit qu'ils repartent en Franconie, etc., etc. Mais je veux dire, le mot, me semble-t-il, n'a pas le même sens. J'ai regardé récemment un peu en détail les pamphlets patriotes fin 88, 80, début 89. Aristocrate, ça veut dire celui qui voudrait que la noblesse, devant l'anéantissement de la puissance royale qui s'effondre devant l'échec de la réforme Lamoignon, usurpe les pouvoirs du roi pour opprimer le peuple. Je crois que c'est précisément ça que ça veut dire aristocrate. Et ça ne désigne donc pas directement un groupe social en tant que tel. C'est tout ce que je voulais dire.
Ça désigne un projet politique, oui.
C'est un projet de même que démocratie, ça ne désigne pas le groupe du peuple.
Ah, ça, d'accord.
Vous voyez, donc ce que je voulais dire, c'est un glissement de sens d'une prétention au pouvoir pour la période révolutionnaire, c'est le sens du mot, me semble-t-il, à un groupe social chez Guizot. Et je crois que ça indique aussi un glissement assez fondamental dans les notions. Parce que social et politique non plus ne s'opposaient pas de la même façon. Social, ça veut dire société, au XVIIIe, ça veut dire communauté politique. On ne l'utilise jamais au sens de Guizot. Le contrat social, c'est un contrat politique.
Oui,
l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme dit une société dans laquelle il n'y a pas de séparation des pouvoirs n'a pas de constitution. Donc ça n'a aucun sens si on utilise le mot société au sens de Guizot. Je crois qu'il y a des.
Oui, voilà. mais ça, c'est le changement complet de la notion de société civile d'ailleurs, qui se produit à peu près à ce moment-là où société civile au départ c'est la traduction de communauté politique. C'est quoi une manière politique, qu'on traduit comme ça dans les premiers textes, et quand les auteurs classiques du XVIIe et même du début du XVIIIe parlent de société civile, ils parlent de l'État. Il parle de l'État politique. Enfin, l'invention de la société, comme on dit, ça apparaît en effet après la Révolution française, il ne faut pas apporter ça. Mais est-ce que ça veut dire quand même qu'il y a aucun rapport entre les trois États et le tiers d'État et la noblesse et des projets politiques. Après tout, l'ancien régime français, c'est un système dans lequel il y a une représentation organique de la noblesse et du tiers d'État. Alors qu'ils ne sont pas souvent réunis, évidemment. Mais parce que ça ne marche pas. Et dans le régime anglais, ça ne part pas de quelque chose de semblable, enfin, de similaire.
Ben, il me semble que la grande différence, c'est que dans le système anglais, et à certains égards aussi, je crois un peu, sous l'ancien régime en France, il y avait une dualité des élites. Nobility et gentry, c'est deux groupes, c'est pas du tout pareil, et donc ça a des conséquences extrêmement différentes, parce que ça, dans la question de la gestion des conflits, mais je ne voudrais pas anticiper sur une question que Denis posait un petit peu après, mais vous n'avez pas une seule élite, du coup, dont le peuple pourrait se dire, elle se ligue contre nous, absolument la renverser, etc., ce qui se passe en 88-89. Il y en a deux, et donc il y aura, le cas échéant, en cas de conflit, la bonne élite country, du côté du pays, et la mauvaise élite quartz, qui elle est corrompue, plus ou moins despotique,
mais avec
etc.
Ce qu'on dit toujours, c'est la vieille idée que ce qui distingue la noblesse anglaise, c'est qu'elle est ouverte, alors que la noblesse française se ferme, c'est pas si faux que ça. Enfin, qu'elle l'est imaginairement. Comment ?
Pardon ? Sinon, nos garènes.
Non, mais imaginairement, au moins. Bien sûr, puisqu'on passe son temps à nourrir des gens.
Mais j'ai le sentiment que la notion d'aristocratie en France, dans le sens patriote 88-89, coagule justement au moment où il n'y a plus cette distinction, au moins dans le discours politique, entre la cour d'un côté et d'autre part. Qui me semble être une espèce de gentry d'État, les parlementaires, c'est un peu l'équivalent de la gentry en Grande-Bretagne des magistrats, qui eux étaient du côté de la nation, mais c'est la même dualité. Et une fois que cette dualité-là, qui permettait, à mon sens, de réguler les conflits un peu moins mal, disparaît, et que le tiers-État a le sentiment que les deux composantes sont au contraire liguées contre lui, alors là, apparaît le cri contre l'aristocratie.
Je pense que c'est qui d'ailleurs va être dirigé contre toutes les élites après, d'ailleurs. On est, chez Babeuf, on est aristocrate dès qu'on est un peu plus intelligent que le voisin. C'est donc ce qui dit en toute.
C'est des distinctions qu'il faut manipuler avec les plus grandes précautions, parce que dans le cas français, somme toute, le discours aristocratique, après 10 ans ou 15 ans après la mort de Saint-Simon, il n'a aucune place, il n'a aucune possibilité politique qui lui est ouverte. Donc il n'y a pas de projet aristocratique politique dans la France du XVIIIe siècle, grosso modo, ça. Et l'aristocratie a une tentation qui est de se rallier au discours démocratique, au discours de l'égalité. Et deuxièmement, dans le cas anglais, il y a une opposition, telle que tu dis, entre gentry et nobility, mais elle est là socialement, je pense qu'elle n'est pas tellement là constitutionnellement, elle ne fonctionne pas constitutionnellement, c'est quand même unifié, et politiquement, j'entends ce que tu dis, et je suis d'accord que c'est des choses compliquées, mais j'ai un petit point d'interrogation, parce qu'à mon avis, Court Country, le parti Court, il est assez fondamentalement monarchique, et la preuve, c'est quand on dit qu'il y a un parti de la Cour, il est à la Chambre des communes en général, il n'est pas à la Chambre des lords. Le parti qui est rallié à la Cour, c'est plutôt au sein de la Chambre des communes, de sorte que la nobility la nobility est constitutionnellement aristocratique, et que ça ne se redivise pas, me semble-t-il, selon ces catégories-là. J'ai l'impression que tout ça change au fur et à mesure du temps, et que même tout le monde peut lire ça extrêmement différemment. Par exemple, les républicains anglais du début du XVIIIe ne voient absolument pas de différence entre nobility et gentry. Il voit.
Ni Tocqueville.
Oui, ni Tocqueville d'ailleurs, bien sûr. Avant peut-être qu'on puisse clore artificiellement, parce qu'il y aurait encore beaucoup à dire, cette première heure, hein, Mélodie Vélec voudrait intervenir.
Oui, je te remarque comme ça, qui sont peut-être un peu désordonnées. Je me demande si le gouvernement mixte, il n'y a pas avant tout une rhétorique du gouvernement mixte. Qui fait qu'on retrouve un peu de ça chez Charles Ier, chez Blackstone à une autre manière, et peut-être ailleurs, et que il y a forcément des déplacements, parce que la question sociale, politico-sociale, elle ne se pose pas de la même manière dans l'Angleterre du XVIIe, du XVIIIe, avec l'Antiquité. Tout à l'heure, Denis disait qu'il y avait des questions de propriété, etc. Oui, dans les premières réformes de Lycurgue, etc., c'était un conflit de propriété, les grands propriétaires et les petits propriétaires, et les réformes politiques étaient visées à résoudre cette question. Alors ensuite, que ce soit sous la Révolution française ou dans la Révolution anglaise, il y a d'autres problèmes. Donc les forces sociales sont jamais tout à fait les mêmes et elles sont difficiles, c'est forcément mouvant, c'est quelque chose qui n'est pas toujours identifiable. Je me demandais si on ne devrait pas réfléchir un peu à aux cités italiennes du Moyen-Âge. Il me semble qu'il y avait aussi des combinaisons institutionnelles assez sophistiquées qui font un peu penser à l'Antiquité, alors, dans un contexte qui certainement était nouveau. Ensuite, je suis frappé, dans un autre registre, ça a été dit au début, que chez Polybe, en effet, comme si là c'était un des éléments des premières formulations, à mon avis chez Aristote aussi, de l'idée de gouvernement mixte, c'était cette idée de système de checks and balances, c'est le terme, si on veut, anachronique, mais au fond il y a quelque chose qui là se transpose très bien, enfin peut traverser le temps et la diversité enfin le changement d'époque et de problématique des corps politiques considérés. Ça me frappe aussi comme combien c'est très moderne pour moi, la façon dont un Polybe parle de ça, avec ce jeu des forces et contre-forces. Alors c'est pas toujours des vétos institutionnalisés, mais enfin c'est quand même quelque chose quand il est dit que sans l'accord du Sénat, les consuls pourraient pas mener la guerre, etc., qu'il y a la question du pouvoir financier qui permet de lier un autre décideur, etc. Dernière remarque, un peu dans le désordre, aussi un problème qui pose la difficulté d'identifier ces forces sociales dont moi aussi au départ je pensais que c'était assez clair, quelques-uns et tout le peuple, c'est la question de la représentation pour un corps comme ce qu'on appelle l'élément populaire. Bon, c'est toujours finalement par la représentation un organe, et donc c'est pas la même chose de parler d'une intervention dans une petite cité avec ou un Landsgemeinde qui approuverait, où là on peut dire qu'il y a quelque chose qui ressemble un peu à ce que pourrait être un peuple qui est immédiatement présent, et une transposition dans un organe comme alors peut-être pas l'assemblée du peuple d'Athènes ou de Rome, mais au contraire de la chambre des communes anglaise. Donc si c'est un peu artificiel quand on essaie de transposer ces trois grands ensembles de l'idée de gouvernement mixte à la situation institutionnelle anglaise, où c'est forcément pas le peuple, c'est parce qu'il y a la représentation. Et comme l'a rappelé Denis ou Carlos, c'est effectivement les cadets de la noblesse qui peuplent la chambre des communes et qui font qu'on est... la notion de démocratie est un peu un artifice.
Merci beaucoup. Il y a quelqu'un que nous avons passé sous silence et je trouve que c'est injuste, c'est Thomas Hobbes.
Il était évoqué par Anna Lévy tout
à l'heure. Pardon, excusez-moi.
Mais je ne voulais pas insister.
Nous aurons une heure pour le faire revivre, peut-être en comparant avec Tocqueville. Après une petite pause qui